Le chapitre 3 a 19 versets. Attention, les chapitres qui vont venir après, ils vont pas venir avec 19 versets, ils vont venir avec 28 ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, celui-là, il n'a encore que 19 versets. Alors, nous allons lire 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voilà, nous arrêtons là, cette lecture. Toujours la même raison, il fallait démontrer à ces Israélites devenus chrétiens qu'il ne fallait plus porter Moïse au pinacle et que c'était fini de le considérer presque comme un dieu, n'est-ce pas ? Lui donner une position trop haute. Évidemment, Moïse est homme, n'est-ce pas ? Et puis alors, on en faisait un personnage, une autorité très très haute. Alors, cela portait une ombre sur le Seigneur Jésus. Alors, il était nécessaire que l'Épître aux Hébreux leur disent ceci, mais attention, comparons Moïse et Jésus, et vous allez voir là apparaître une grande différence. La supériorité de Jésus-Christ sur Moïse semble pouvoir se déduire de sa supériorité sur les anges, du fait qu'on vient d'établir que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Eh bien, à plus forte raison, a fortiori, il est-il par rapport à Moïse, puisque les anges sont eux-mêmes supérieurs à Moïse. Cependant, Moïse a rempli une tâche considérable. Dieu peut faire de très grandes choses avec les hommes, même avec nous maintenant. Il a rempli une tâche considérable et éclatante même. Moïse a été agréable à Dieu. L'œuvre qu'il a accomplie porte une signification prophétique de grande valeur. Ce que Dieu a fait en Égypte et au désert à l'égard d'Israël avec Moïse apparaît comme une grande image de ce que Dieu allait faire pour délivrer les pécheurs et ouvrir la nouvelle alliance par son Fils. C'est la grande image, la délivrance à main forte et à bras étendus du peuple d'Israël dans l'Égypte. Tout cela se passait, bien sûr, dans les relations terrestres. Mais maintenant, il s'agit d'une délivrance qui a bien davantage de hauteur. Mais c'est l'image quand même. Il y a entre ces deux grandes œuvres de Dieu, la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, et puis maintenant la délivrance des pécheurs pour leur salut, il y a un parallélisme frappant et très instructif. Josué sera également mentionné car il a été le continuateur de l'œuvre de Moïse. Mais rappelons-nous que Moïse a dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ceci en Deutéronome 18:15. Et maintenant, notre épître nous dit « Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur que nous confessons, Jésus. » Étymologiquement, « considérer » signifie « contempler les étoiles ». Contempler les étoiles, c'est... Et le sens actuel est « regarder attentivement ». Concentrer nos regards sur l'étoile brillante du matin qu'est le Seigneur Jésus, tel est le pressant conseil que nous recevons ici. L'invitation à considérer ou à contempler revient plusieurs fois dans notre épître et aussi dans la Bible. C'est ce que l'on ne fait pas suffisamment. La méditation nécessite un regard persistant du cœur sur les hautes vérités révélées. Un regard persistant du cœur avec réflexion, avec sage réflexion, pas avec une réflexion qui s'étonne à tout propos des questions en quelque sorte d'opposition. Mais enfin, pourquoi c'est comme ça? Moi, je comprends pas, mais pourquoi ça n'aurait pas été ainsi? Pourquoi, etc. Ça, c'est pas le bon mode de réflexion, ça. Mais la réflexion va dans le sens, évidemment, du texte. La réflexion est une recherche. Une recherche. La maison. Ici, il nous est parlé de maison. Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Et ensuite, il nous est dit que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. La maison, dans notre texte, est tantôt celle de Moïse, et tantôt la maison de Dieu, au verset 5, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, puis la maison de Christ, puis la maison de Christ, c'est nous, c'est-à-dire c'est l'Église, corps de Christ. La maison de Moïse était l'assemblée du peuple d'Israël, qui était la lointaine formation de l'Église. C'était l'assemblée de Dieu, elle est appelée l'assemblée de Dieu, l'assemblée du peuple d'Israël. C'est l'assemblée de Dieu, elle est ainsi appelée. C'est là d'ailleurs que ceux qui ont dénommé les assemblées que nous sommes, hein, qui forment en gros surtout le mouvement de Pentecôte, c'est là qu'ils sont allés chercher cette désignation. C'est dans l'Ancien Testament. La maison de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël était désigné donc comme l'Assemblée de l'Éternel ou l'Assemblée de Dieu ou la Grande Assemblée même. L'Église de la Nouvelle Alliance était en vue et en préparation. Or, la différence entre Moïse et Jésus-Christ tient de ce que Moïse a été fidèle, un fidèle serviteur, dans toute la maison de Dieu, parmi le peuple qui l'a conduit si bien, rendant en cela un témoignage prophétique. Chaque fois qu'on rend, chers amis, même dans l'Église aujourd'hui, un témoignage qui honore Dieu, qui honore la vérité, eh bien, notre témoignage est prophétique, chers amis. Si vous faites quelque chose qui est vraiment selon, dans le fil, dans le droit fil de la parole de Dieu, eh bien, alors vous rendez un témoignage, et ce témoignage est prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va servir après vous, qu'il va servir plus loin que vous ne pensez. Et par exemple, je prends un exemple, le sang d'Abel, qui parle encore quoique mort. Voilà un exemple. Le sang d'Abel, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ce qu'a fait Abel selon la foi, ce qu'il a fait. Lui, d'aller offrir la graisse des premiers-nés de son troupeau. Eh bien, il a fait ça guidé par la foi. Il a su que c'était ça que Dieu attendait, que c'était ça que Dieu voulait, que en cela était une démarche de son cœur qui était la bonne, qui était selon le plan de Dieu. Hein? Alors, c'est cela que le texte veut dire, son sang parle encore, le sang d'Abel parle encore, quoique mort. C'est-à-dire que cette démarche d'Abel a été prophétique, parce qu'elle était un témoignage dans le droit fil de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, si nous faisons de telles démarches, sinon nos activités, au lieu d'aller les chercher, en chercher le modèle dans le monde, prenons-en le modèle dans les Écritures. Et si nous faisons vraiment dans les Écritures et dans l'inspiration que le Saint-Esprit doit nous accorder, eh bien, si nous faisons de telles démarches, elles seront prophétiques. Vous voulez que je vous en donne des preuves? Eh bien, il y a un jour, un frère qui, ayant prié, et s'étant vraiment consacré au Seigneur, ça, je dis ça, c'est un préalable nécessaire, et se trouvant devant des personnes irréductibles sur le chapitre de la foi, a été inspiré, le Saint-Esprit l'a inspiré. Il a fait certaines choses, il a dit certaines choses en un temps très court. Ça s'est déroulé dans l'espace à peu près d'une heure. Ces personnes l'ont vu. Elles ont été touchées. Elles ont été touchées. Ce qu'il en est résulté, pour elles, pour ces personnes-là, on ne le sait pas trop. Mais enfin, elles ont été touchées. Et c'était vraiment un témoignage où s'accordaient si bien la parole qu'il prononçait, les paroles qu'il prononçait et les actes qu'il accomplissait dans ce temps. Et puis, il est passé à d'autres choses. Les années se sont écoulées. 25 ans après, voici que il rencontre des personnes chrétiennes converties qui avaient un témoignage excellent. Or, ce témoignage qu'avaient ces personnes 25 ans après était exactement exactement parallèle à celui que lui, il avait fourni 25 ans plus tôt. Alors, bien sûr, il était content de voir ça, que ces personnes chrétiennes, et c'était des personnes assez nouvellement converties et baptisées. Hein. Et alors, il engage la conversation. Ne voilà-t-il pas qu'il apprend que c'est le récit de ce qu'il avait fait 25 ans plus tôt, qui avait déterminé ces personnes à agir et à parler comme elles le faisaient, sans l'avoir connu lui. N'est-ce pas? Vous voyez? Voilà ce que je veux dire. Quand j'affirme que maintenant, notre témoignage doit être nous aussi prophétique. Notre témoignage, le Saint-Esprit l'utilise pas seulement à l'égard des personnes en face desquelles nous nous trouvons dans l'instant, mais il l'utilisera plus tard. Il l'utilisera comme il voudra. Qui sait, il l'utilisera après notre mort. Si tant est qu'il y ait encore le temps, n'est-ce pas? Il l'utilisera. Mais notre témoignage aura été prophétique. Et ça c'est quelque chose, c'est une valeur qui est attachée vraiment à l'Évangile et à tout le conseil de Dieu concernant la vie chrétienne. Or, dans notre texte, apparaît une différence entre Moïse et Jésus-Christ, qui tient en ce que Moïse a été un fidèle serviteur dans toute la maison de Dieu, rendant en cela un témoignage donc prophétique. Christ, fidèle lui également, mais sa fidélité est d'un autre ordre. Sa fidélité est celle du Fils de Dieu, du Fils auquel appartient la maison. Et la maison, là, c'est nous, tout dit le texte. La maison, c'est le corps de Christ. Il en est le constructeur. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. La fidélité de Moïse a consisté à obéir à la parole qui lui était donnée. Il exerçait un ministère préparant l'avenir. Ce qu'il disait et ce qu'il faisait était un témoignage rendu à ce que serait l'œuvre de Jésus-Christ, le prophète annoncé par lui. Il viendra un prophète tel que moi. La loi attendait celui qui accomplirait ce témoignage prophétique parfaitement. Christ a été établi comme fils et héritier sur la maison de Dieu. Il la possède, cette maison, selon une volonté formelle de son Père. Il a été établi héritier de toutes choses, établi dans le plan de Dieu, déjà héritier de toutes choses. L'Église ou l'Assemblée des saints, nous l'avons dit, constitue donc cette maison de Jésus-Christ, mais une réserve figure au verset 6. Au verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pourvu que, une réserve. Soyons attentifs à de telles réserves de la parole de Dieu. Méditons-les, ces réserves. Attardons-nous sur le verbe « retenir », pourvu que nous retenions. Ne rien abandonner. Ne rien laisser partir. Veiller sur le dépôt que nous avons reçu. C'est le conseil du Seigneur Jésus aux églises de l'Apocalypse. Ce que tu as reçu, retiens-le. Ne le perds pas. Ce que tu as reçu. Surveillons la confiance que nous mettons en Jésus-Christ et en toute parole. Augmentons même cette confiance. Augmentons-la, poussons-la plus loin. Et jusqu'à la fin, ne perdons ni le premier amour, ni le zèle, ni la ferveur, et prenons garde aux soucis du siècle. À ces soucis, vous savez, qui sont dans la parabole comme des ronces qui poussent rapidement de tous les côtés et qui enveloppent, qui étouffent la jeune plante qui est sortie de la bonne semence. Attention aux soucis du siècle, aux attraits auxquels la chair est malheureusement encore sensible. Nous allons au verset 7, et nous lirons toujours au chapitre 3, du verset 7 au verset 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentaient, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et nous allons jusqu'à la fin du chapitre. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, nous avons lu au début de l'Épître que Dieu a parlé autrefois par les prophètes, maintenant il nous parle par le Fils. Mais le langage d'autrefois était tout autant celui du Saint-Esprit. C'était une autre manière de parler, mais c'était aussi le langage du Saint-Esprit. Il y a donc une relation toujours possible entre la parole annoncée par les prophètes et celle annoncée par le Fils. C'est le Saint-Esprit qui fait le rapprochement et qui met en valeur opportunément toute parole des Écritures. Je dis bien opportunément. Laissons l'opportunité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous apprend à bien entendre la voix de Dieu et nous invite à lui obéir, écouter, recevoir dans son cœur et garder la parole de Dieu, ainsi que Jésus l'a bien recommandé. C'est cela qui nous fera grandir dans les voies de Dieu, c'est cela qui nous procurera les bénédictions de Dieu. Soumettons donc notre cœur à l'enseignement du Saint-Esprit. Dans la Bible en français courant, je rappelle un passage de la première Épître, Jean chapitre 2, versets 26 et 27. L'Esprit vous instruit de tout et ce qu'il vous enseigne est vrai et non pas faux. C'est pourquoi obéissez à l'enseignement de l'Esprit et en demeurant unis au Christ. Les versets que nous avons lus sont occupés par d'abord une citation du psaume 95. Ce psaume rappelle le déplorable mouvement de révolte du peuple d'Israël contre son Dieu, au lieu qui fut appelé Massa et Meriba, signifiant tentation et querelle. Les Israélites avaient été délivrés d'Égypte, qui était la terre de leur servitude, par le puissant bras de Dieu. Ils avaient traversé miraculeusement la mer Rouge, et l'Éternel les portait à travers le désert. Or voici qu'ils ne trouvent pas d'eau à boire un certain jour, et ils cherchent querelle à Moïse. Sur la parole de l'Éternel, Moïse frappe le rocher d'Horeb, et il en jaillit de l'eau. Ainsi, bien qu'ayant vu les œuvres prodigieuses de Dieu, le peuple manqua de confiance et les cœurs s'endurcirent. Quand il y a un défaut de conscience, irrévocablement, les cœurs s'endurcissent. Notons bien les termes qu'emploie le psaume 95. « J'eus cette race en dégoût, » dit le psaume 95. « J'eus cette race en dégoût. » Et puis aussi, pour le qualifier, cette race, « cœur égaré ». Ils avaient un cœur égaré. Puis encore, « ils ne connaissent pas mes voies. » Et encore, « ils n'entreront pas dans mon repos. » Dans mon repos, c'est-à-dire dans le pays que je leur ai préparé pour leur repos. En somme, les Israélites ont opposé à Dieu un cœur endurci. Leur cœur n'était pas semblable à celui d'Abraham, qui était prêt à croire Dieu sur sa parole. Mais il montrait des dispositions analogues à celles de Pharaon. Et ces dispositions étaient celles, bien sûr, de l'incrédulité. Alors Dieu prit cette génération en dégoût et la fit périr dans le désert. Elle n'entrera pas dans le pays du repos. C'est pourquoi le psaume 95 et l'épître aux Hébreux appuient sur ce conseil, surtout n'endurcissez pas vos cœurs. Un conseil qui concerne donc les chrétiens tout autant que le peuple israélite d'autrefois. Notre épître va ensuite insister sur trois points. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ils n'entreront pas dans mon repos. L'endurcissement des cœurs, comment se caractérise-t-il maintenant, à notre époque, l'endurcissement des cœurs? Comment se produit-il? Quelles sont les causes qui le provoquent? Dieu a toujours demandé à son peuple d'Israël, et à l'Église aujourd'hui, et qu'il montre un cœur humble, soumis, aimant et disposé à obéir, à mettre la parole en pratique. Revêtez-vous d'humilité, dit le Nouveau Testament. Le prophète Ésaïe, pour sa part, a dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Voilà, je porterai mes regards sur celui qui craint ma parole. Il faut que la voix de Dieu trouve constamment un écho dans notre cœur, constamment. Il importe donc que le cœur soit assoiffé, toujours assoiffé, de vérité, et disposé à recevoir les leçons de l'Esprit-Saint, car l'Esprit-Saint donne, distribue des leçons. C'est malheureux que certains ne les entendent pas, ces leçons. Mais le Saint-Esprit nous en donne constamment des leçons. Il faut y prendre garde. Comment un cœur chrétien peut-il s'endurcir? Eh bien, il peut s'endurcir par une sorte de lassitude. Il peut s'endurcir par la négligence dans la piété journalière. Il peut s'endurcir par trop d'intérêts attaché à l'existence courante et aux nécessités matérielles. Il y a encore d'autres risques, celui de se plaire à ne considérer que les idées, ou à beaucoup parler des différents points de vue sur la doctrine. Il y a certains chrétiens qui se plaisent toujours là, n'est-ce pas, sur ce terrain. Mais c'est facile, c'est quelque chose que la chair ne trouve pas désagréable. Le domaine des idées. C'est curieux, aujourd'hui, vous voyez des gens d'église qui, sur le plan des idées, vous disent des choses valables. Mais ne regardez pas, comme disait le Seigneur, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Sur le plan des idées, ça c'est, on peut se complaire sur ce plan des idées. Moi, je méfie du plan des idées, pourtant, je l'aime. Je l'aime parce qu'il faut réfléchir, il faut s'y tenir, s'y placer. Mais immédiatement, évidemment, il faut que ça se traduise en vie. On ne peut pas nourrir le cœur par le maniement des idées ou en recherchant des émotions agréables, que ce soit par la musique, que ce soit autrement. En recherchant des émotions agréables. C'est pas ainsi qu'on nourrit le cœur. On ne nourrit pas le cœur avec ça. Et quand je dis le cœur, je pense à l'esprit. Il arrive que l'on soit davantage porté à apprendre et à satisfaire l'intelligence plutôt qu'à mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a ce piège bien connu, ce piège de l'intelligence. Notre intelligence aime bien travailler. On est assis sur de bons fauteuils, on ne se préoccupe pas des autres, n'est-ce pas? On ne se préoccupe pas de l'Église, on ne se préoccupe de rien du tout. Mais on est là, n'est-ce pas, sur le plan des idées, et puis alors ça y est, on se lance, on émet toutes sortes de conceptions. Ah oui, le plan des idées. Moi j'ai eu des conversations avec des gens qui aimaient ça, aimaient vraiment seulement quand je leur disais « Bon, tout ça, c'est beau, mais la parole de Dieu, elle demande à être vécue. » Alors là, ils ne m'écoutaient plus. On se séparait. On peut goûter la prédication. On peut la goûter sans pour autant garder en soi le conseil de Dieu. On peut paraître mener une vie chrétienne, tout en restant éloigné de Dieu et absent d'une communion réelle avec le Seigneur. C'est possible, ça. C'est curieux, mais c'est possible. Tout cela aboutit à l'endurcissement des cœurs. Ainsi, il faut aux chrétiens une vigilance assidue. Il faut qu'il veille sur son cœur, car, dit le proverbe, ton cœur est la source. C'est dans ton cœur que sont les sources de la vie. Dans ton cœur sont les sources. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Car de lui, en effet, viennent les sources de la vie, parce que c'est cet endroit que Dieu utilise pour y placer une source. C'est là que l'esprit vient. Et je vous dis, quand je parle du cœur, c'est l'esprit. Alors, c'est dans notre esprit que Dieu alimente les sources. Il met là une source de vie. Prenez garde, frère, dit le verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. La parole nous met en garde contre les tendances périlleuses et nous avertit des conséquences terribles de l'endurcissement et de l'incrédulité. La foi réelle, agissante, est la réponse, c'est une réponse, la réponse que Dieu attend de ceux à qui il s'adresse, à qui il parle avec amour. Il attend une réponse, c'est cette réponse-là. Dieu, lui, il agit selon sa parole. Nous agissons selon la foi. Dieu agit toujours selon sa parole. Nous avons à agir selon notre foi. Voilà la réponse. Ah, Dieu et sa parole. Sa parole retentit. Et puis nous agissons selon notre foi. Si nous répondons à la parole de Dieu par la foi agissante et persévérante, nous entrerons dans le repos de Dieu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Si nous répondons par l'incrédulité et l'endurcissement de notre cœur, nous nous heurterons au verdict de Dieu. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pas rien à faire. Ils n'entreront pas dans mon repos. L'incrédulité ou l'absence d'une foi réelle et obéissante dresse donc un obstacle entre Dieu et nous. C'est ça, le cœur mauvais et incrédule. Le cœur mauvais et incrédule ne peut que nous amener à nous détourner du Dieu vivant. Il y a là une cause et, en même temps, sa conséquence inéluctable. Pourquoi Dieu est-il loin de nous, et comment peut-il rester sourd à nos prières? L'incrédulité peut en être la cause principale. Rappelons-nous la réprobation exprimée par Jésus. Par Jésus, race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Et les apôtres, ils étaient visés en cela. Et l'Épître nous conseille, exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Remarquons le rythme quotidien, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ce rythme quotidien est celui que Dieu a institué pour nous, chaque jour. C'est un rythme, ça. Ensuite, le conseil fait appel à l'exhortation mutuelle, soit dans le sein de la famille, quand c'est possible, soit à la faveur des relations chrétiennes. Nous avons besoin les uns des autres. Et il ne faut pas que les structures de l'Église nous séparent les chrétiens les uns des autres. Il ne faut pas. Ça, c'est contraire au vœu de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Ce ne sont pas seulement les rencontres du dimanche matin ou d'une réunion en semaine qui vont suffire à satisfaire ici la parole. Non, pas du tout. Nous avons besoin des encouragements mutuels. Et c'est ce que dit le verset 13 pour que nous puissions résister à la séduction du péché, qui est lui capable, bien sûr, de nous endurcir. Persévérons ensemble dans l'attitude essentielle de la foi et Dieu continuera à parler à nos cœurs par son esprit. Et le verset 14 nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions toujours des réserves, pourvu que nous retenions. Moi, j'aime ces réserves. Sans réserve, si l'on abandonne les réserves, si on les méconnaît, alors là, on défigure la parole de Dieu. Les réserves, elles sont nécessaires. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc restons attachés à lui, au chef, selon le terme de Paul, restez attachés au chef. Nous avons besoin de son esprit, de sa force, de sa victoire, de sa vie, de son intercession. N'endurcissez pas vos cœurs. L'endurcissement des cœurs est produit essentiellement par l'incrédulité. Mais le cœur qui faiblit dans la foi devient dur. Il faiblit dans la foi, il devient dur. Il se sclérose. Et sclérose, c'est précisément pourquoi, voici pourquoi je prends ce mot, c'est un mot qui est formé d'après le mot grec, lequel est traduit par endurcir. En réalité, le mot grec évoque la sclérose. Le cœur endurci, c'est un cœur qui se sclérose. Le cœur se sclérose comme les artères du corps humain. L'incrédulité provoque donc la vieillesse du cœur. Oh, chers amis, j'aurais bien des choses à vous dire sur la vieillesse du cœur. La vieillesse du cœur. La vieillesse du cœur chrétien. Comme c'est dur, cela. Comme c'est difficile. Quelle lutte ne faut-il pas devant un cas comme ça, me suis trouvé devant des personnes dont le cœur, des personnes chrétiennes, pouvant dire, moi, il y a 35 ans que je suis baptisé, un autre dira, moi, il y a bientôt 50 ans que je suis chrétien. Alors, pensez, ça vaut quelque chose, ça, n'est-ce pas? Et puis, alors, on se trouve devant des cœurs qui ont vieilli. C'est quelque chose de lamentable parce que c'est difficile de les ramener à la jeunesse. C'est difficile. Et je crois qu'il faut que l'esprit emploie l'épreuve pour avoir raison de cœurs chrétiens, je dis bien chrétiens, qui ont vieilli. Le livre de l'Exode attribue au Pharaon lui-même l'endurcissement de son cœur. Cela 10 fois. Et 10 fois aussi, le livre de l'Exode dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Alors, nous avons là ces deux choses qui paraissent se contrarier. C'est que le cœur de Pharaon s'endurcit de par la responsabilité de lui-même. Et puis après, il est dit aussi que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Alors, il faut essayer d'y voir clair. Après chacune des 5 plaies, l'endurcissement est attribué à Pharaon lui-même. Et ensuite, après les 5 plaies, il est attribué à la volonté de Dieu. Cela signifie que l'homme peut être volontairement incrédule d'abord, mais qu'ensuite, Dieu le fixe dans son incrédulité. Ah, tu as voulu être incrédule. Eh bien, maintenant, tu vas l'être et puis tu n'en sortiras plus. Voilà, n'est-ce pas ce que Dieu a fait avec Pharaon. Il ne peut plus en sortir. C'est fini. Quiconque se livre au péché est esclave du péché, a dit le Seigneur Jésus. Ainsi, lorsqu'un cœur est sollicité par la parole de Dieu, qu'il n'oppose pas une attitude incrédule, car il finira par se trouver pris à son propre piège. Attention, l'incrédulité n'est pas le péché du païen, c'est le péché du chrétien. Ce n'est pas le péché du païen. Nous avons de fausses idées là-dessus. On dit des gens, bon, il est incrédule, il ne croit pas, etc. Mais il est incrédule, il ne sait rien. Il sait rien, il n'a pas d'objet pour sa foi. Et sa foi n'a été éveillée par rien du tout. Pas sûr qu'il est incrédule, c'est pas sûr du tout. Et il est ignorant, il est dans les ténèbres, voilà ce qu'on peut dire de lui. Hein? Mais un chrétien qui, lui, est sorti des ténèbres, et qui, lui, a reçu de la connaissance, hein, eh bien, s'il est incrédule, ça, c'est son péché. Ça, c'est vraiment un péché caractérisé chez lui. Donc, l'incrédulité n'est pas le péché du païen, mais celui du chrétien. Le cœur endurci est celui qui s'était tout d'abord attendri. Il est endurci, mais il était attendri pendant un temps. Il avait recueilli la parole de Dieu. Et c'est dans cette pensée que l'Épître aux Hébreux parle d'endurcissement. Elle s'adresse à des chrétiens. Elle s'adresse à des chrétiens dont la foi est en train de s'infléchir dangereusement. Le cœur endurci est donc un cœur qui avait exercé la foi et qui l'a laissé s'appauvrir et se perdre. Les Israélites ont vu se fermer l'entrée dans le repos de Dieu, quoiqu'ils eussent quitté l'Égypte. Ils avaient quitté l'Égypte par la délivrance de Dieu afin de se rendre à ce repos. Il fallait qu'ils aillent en Canaan, c'est-à-dire au pays de l'Éternel. Et ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas arrivés à terme, parce que leur cœur s'est endurci. Aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'est-ce que c'est cet aujourd'hui de Dieu ? L'aujourd'hui, c'est quand Dieu parle qu'il faut écouter. Il ne faut pas s'attendre. L'homme qui remet à demain l'écoute de la parole de Dieu s'oppose à Dieu. Je parle de chrétiens. Demain, ce ne sera plus l'aujourd'hui de Dieu. Certes, la parole de Dieu est éternelle, elle est vivante et permanente. Ce qui est la réalité de son essence. Mais lorsqu'elle s'adresse à un homme, cette parole de Dieu, elle se fait fuyante. Car Dieu veut parler aujourd'hui à quelqu'un et il voudra aussi s'y refuser demain. Le moment où Dieu parle à un cœur est le moment favorable. Le moment favorable, c'est le terme que nous voyons dans 2 Corinthiens 6, 2. Il faut que la réponse de l'homme soit donnée sans aucun calcul de temps et sans la différer. On pourrait dire que l'assemblée de Dieu, aujourd'hui, n'a pas à craindre cela. Ce serait peut-être mal comprendre le conseil de Dieu. On pourrait dire aussi que l'aujourd'hui de Dieu ne se situe pas dans le temps. Et la foi qui répond à la parole de Dieu doit emprunter cette trouée dans le temps qu'est l'aujourd'hui, c'est une trouée dans le temps. Dieu, lui, est éternel et il intervient pour nous dans le temps. Son intervention, c'est aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est une trouée et par cette trouée, il faut que la foi passe. Nous, chrétiens, nous devons répondre immédiatement dans l'aujourd'hui. Jésus disait: pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Ne remettons jamais à plus tard notre approche de Dieu. Et quand il y a lieu, notre repentir, ne le remettons pas à plus tard. Pensons à la trouée. L'aujourd'hui, c'est la trouée de Dieu dans le temps. Le châtiment de Dieu peut être son silence prolongé. Nous en avons des exemples dans l'Ancien Testament. Abraham, il est passé par une dizaine d'épreuves. Et puis, il y en a, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, qui ont été mal supportées par lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il a mal réagi. Dans les autres, il a bien réagi. Il a réagi en homme de foi, mais dans celle-là, il a mal réagi. Et pourtant, vous voyez, il nous est donné comme le père des croyants. Hein? Oui. Eh bien, donc, lui, Abraham, il a mal réagi parce que il n'a pas apporté à Dieu immédiatement la réponse qui aurait été la bonne. Et alors, à ce moment-là, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que Dieu ne lui a plus parlé. Si vous remarquez, là, vous voyez que chaque fois que l'épreuve échoue, à cause d'Abraham, l'épreuve échoue, n'est-ce pas? Il y a un long silence de Dieu. Dieu ne parle plus. Et vous savez, si nous avions ces silences de Dieu que Abraham a connus, si nous avions dans notre vie chrétienne, nous les trouverions longs. Ça dure des années. Dieu ne parle plus, ne dit plus rien. Alors, Abraham, il a le temps de réfléchir. Dieu ne dit plus rien, c'est comme si Dieu n'était plus là. Et alors si ensuite vient une autre épreuve, c'est comme ça que Dieu fera sortir de son marasme, vient une autre épreuve, et celle-là, alors Abraham la supporte avec foi. Oh, magnifique. Alors Dieu se manifeste, non seulement il parle, mais se manifeste tout de suite. Tout de suite. Alors, tout cela comporte des leçons pour nous. Le prophète Amos a annoncé un temps où la parole de Dieu serait alors carrément refusée. Les belles jeunes filles, les beaux jeunes gens chercheront la parole de Dieu, ils iront un peu partout et ils ne la trouveront pas, parce que Dieu la refusera. Dieu peut refuser sa parole. C'est une chose dont nous avons à tenir compte pour nous dans la vie chrétienne. Le repos de Dieu, et nous allons terminer maintenant ce soir là-dessus, le repos de Dieu, avant de le situer dans le futur, il faut le voir dans l'immédiat. Dans le chapitre 11 de Matthieu, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tout de suite. Tout de suite. C'est pas dans quelques temps. C'est pas plus tard. C'est pas au ciel. Au ciel, il y en aura un, certes. Mais maintenant, je vais vous en donner du repos. Du repos maintenant. Et puis aussi, dans Romains 14, nous avons 14-17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ah, c'est pas le royaume de Dieu. Bon, il faut manger et boire. Nous allons encore tout à l'heure manger et boire. Bon, mais ça, c'est pas le royaume de Dieu. Bah, le royaume de Dieu, il sera pas dans notre assiette, il sera dans notre cœur, le règne des cieux. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice. C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, nous le transportons, même quand nous mangeons et buvons, même quand nous faisons autre chose, mais gardons la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comme il faut veiller vraiment sur la vie chrétienne, chers amis, comme il faut veiller, comme il faut la reconsidérer, comme elle doit être reconsidérée, notre vie chrétienne. Et nous allons avoir encore d'autres motifs à le dire. Eh bien, ce soir, nous avons terminé le chapitre 3. On va que nous allions un peu plus vite dans les trois jours qui nous restent. Mais j'espère que nous atteindrons le but. Que le Seigneur soit béni.